Bonjour à toutes et à tous, ainsi qu'à celles et ceux qui sont connectés. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, et même si ce n'était pas le cas, je ne doute pas que dans sa grâce, Dieu veut quand même vous parler cet après-midi. Vous serez d'accord avec moi que si je vous dis que nous n'avons pas tous le même degré de tolérance par rapport à la saleté ou au désordre, donc si je vous dis cela, je pense que vous seriez d'accord avec moi, que nous n'avons pas tous le même degré de tolérance par rapport à la saleté ou au désordre. Certains sont qualifiés par les autres de maniaques quand il s'agit du ménage. D'autres ne semblent pas toujours voir combien leur environnement est désordonné. Et en disant cela, je ne vise personne. Je sais qu'avant, chez mes parents, le ménage était toujours à l'ordre du jour quand on savait qu'on allait avoir de la visite. J'imagine que nous faisons tous un peu cela, par respect pour la personne que nous allons accueillir. Et plus la personne est importante, plus l'effort sera grand. Il faudra peut-être frotter plus. Le texte que nous allons étudier cet après-midi nous montre à quel point notre Dieu ne tolère pas les impuretés. Et en particulier lorsque ces impuretés proviennent de son peuple. Il y a quelques semaines, nous avons vu comment Dieu a libéré son peuple de l'esclavage en Égypte, dans Exode chapitre 12. Il l'a conduit dans le désert jusqu'au mont Sinaï, et là, il lui a adressé de vive voix les 10 commandements, ce que nous avons vu dans Exode 20. Et bien sûr, Dieu a donné également d'autres lois en dehors des 10 commandements. Désormais, Israël est le peuple qui lui appartient. Il est le peuple de Dieu. Une alliance est établie. Mais bien vite, en l'absence de Moïse, le peuple enfreint les commandements. C'est l'histoire du veau d'or que nous avons vu la semaine dernière, dans Exode 32, avec Clément. C'est un épisode d'infidélité, où le peuple tombe dans l'idolâtrie en fabriquant un veau d'or. Néanmoins, Moïse intervient, intercède auprès de Dieu et demande pardon pour le peuple. Et puis lorsque nous lisons la fin du livre d'Exode, au dernier chapitre, il est question d'un tabernacle construit avec les matériaux que le peuple a fournis en quantité, de l'or, de l'argent, du bronze, des étoffes, des peaux d'animaux. Et ce tabernacle est en quelque sorte un sanctuaire portatif. Il se monte et se démonte. C'est dans ce lieu que Dieu a choisi. C'est dans ce lieu que Dieu choisit de demeurer au milieu de son peuple. C'est dans ce lieu que les sacrifices se feront. C'est dans ce lieu que se déroule ce que nous allons lire dans Lévitique chapitre 16. Et voici simplement une représentation pour qu'on puisse imaginer à quoi ressemblait ce tabernacle avec le parvis qui l'entoure. Et j'aurai l'occasion de revenir, de vous montrer plusieurs fois cette image pour avoir l'occasion de visualiser précisément ce qu'est ce tabernacle et ce qui s'y passe. Une autre image également tirée de la Bible d'étude du semeur. Et dans Lévitique 16, lorsqu'on arrive à ce moment, donc on change de livre, on passe de l'Exode à Lévitique, eh bien, dans Lévitique 16, il est question d'un jour spécial. Le jour qu'on appelle le jour des expiations, où le grand prêtre, Aaron, offre des sacrifices afin que Dieu pardonne à tout son peuple tous ses péchés. Et cela se passe ce jour-là, au jour des expiations. Et le but visé, nous le lisons notamment au verset 30, « Car en ce jour-là, on accomplira le rite d'expiation pour vous, afin de vous purifier de toutes vos fautes. Ainsi, vous serez purs devant l'Éternel. » Voilà le but visé ce jour-là. C'est pourquoi nous comprenons très clairement que Dieu donne à son peuple un moyen d'être purifié de tous ses péchés. Et pour quelle raison ou dans quel but? Afin que ce dernier continue de lui rendre un culte. Dieu donne à son peuple un moyen d'être purifié de tous ses péchés afin que ce dernier continue de lui rendre un culte. Pour le dire d'une manière plus terre à terre, ce n'est que dans une maison propre que Dieu pourra demeurer avec son peuple. Et forcément, je vais parcourir ce chapitre 16 avec vous. C'est un chapitre qui contient 34 versets. Nous allons tous les parcourir. Et donc, nécessairement, il va falloir parler d'abord de ces sacrifices qui sont mentionnés dans ce texte. Et pourquoi ces sacrifices sont nécessaires? Le début du livre du Lévitique commence par des instructions au sujet de différents types de sacrifices. Et j'en nommerai deux qui nous intéressent dans notre texte. D'abord, le sacrifice pour le péché et l'Holocauste. Et je pense qu'il est nécessaire qu'on puisse définir de quoi on parle ici. Eh bien, d'abord, le sacrifice pour le péché, il est ordinairement offert à cause de fautes involontaires et des fautes qui sont précisées, notamment dans la loi. Donc, on ne sacrifie pas pour le péché, pour n'importe quel péché, mais précisément pour des fautes involontaires qu'on a commis involontairement. Et selon l'importance de la personne ou du groupe concerné, eh bien, l'animal qui sera offert sera différent, comme nous allons le voir tout à l'heure. Quant à l'Holocauste, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un sacrifice où la victime est presque entièrement brûlée sur l'autel. Et il est offert à cause des fautes en général. Et permet ainsi que l'adorateur puisse toujours être agréé par Dieu. Et c'est pourquoi l'Holocauste est un sacrifice qui est offert matin et soir, tous les jours. Donc cela ne vise pas des fautes précises, mais les fautes en général. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose justement qu'on puisse lire les premiers versets de notre chapitre. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui périrent lorsqu'ils se présentèrent devant l'Éternel. Il lui dit, « Dis à ton frère Aaron de ne pas entrer à tout moment dans le sanctuaire au-delà du voile, devant le propitiatoire qui repose sur le coffre sacré, afin qu'il ne meure pas, car j'apparais dans la nuée au-dessus du propitiatoire. » Voici de quelle manière Aaron pourra pénétrer dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice pour le péché et un bélier pour l'Holocauste. Il se revêtira d'une tunique sainte en lin. Il mettra sur lui des caleçons de lin, se ceindra d'une écharpe de lin et se coiffera d'un turban de lin. Il mettra ses vêtements sacrés après s'être lavé le corps dans l'eau. L'assemblée des Israélites lui fournira deux boucs pour le sacrifice pour le péché et un bélier pour l'Holocauste. Le premier verset présente le contexte dans lequel les nouvelles instructions sont données. Précédemment, lorsque nous lisons au chapitre 10, donc avant ce chapitre 16, nous lisons que deux des fils d'Aaron sont morts parce qu'ils ne se sont pas présentés devant Dieu selon les règles de Dieu. Ils n'ont pas fait les choses correctement et Dieu les a punis instantanément. Ils sont morts. C'est pourquoi Dieu donne ici une limite. Une seule personne, une fois par an. Une seule personne, une fois par an. Alors, une fois par an, ce n'est pas écrit ici, mais ce sera indiqué à la fin du chapitre. Une seule personne, une fois par an. Personne en dehors d'Aaron, qui était le grand prêtre, ou le chef des prêtres, si vous voulez, personne d'autre que lui ne pouvait accéder au-delà du voile, dans le lieu très saint. C'est là que Dieu manifeste sa présence, dans le lieu très saint. Vous voyez là, cette forme de tente, et bien dans la pièce la plus reculée, qu'on appelle le lieu très saint, il n'y avait que Aaron, le grand prêtre, qui pouvait y pénétrer une seule fois par an. Et qu'est-ce qui se trouvait dans cette pièce en particulier, dans cette partie du tabernacle? Eh bien, il y avait ce coffre de l'Alliance, ce coffre dans lequel nous trouvons les 10 commandements, les tablettes des 10 commandements. Et puis au-dessus de ce coffre, qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'on appelle ici le propitiatoire, qui désigne en fait le couvercle. C'est sur ce couvercle que le sang sera aspergé ce jour-là, le sang des animaux, le sang des sacrifices. De telle sorte que Dieu, qui est en colère contre le péché, puisse être apaisé, que sa colère soit apaisée. Et c'est pour cela que, en quelque sorte, eh bien, c'est ainsi qu'on désigne ce couvercle propitiatoire, parce que Dieu devient propice à son peuple. Dieu lui accorde de nouveau sa faveur, parce que du sang a été versé. Et tout cela, précise l'Éternel, afin que Aaron ne meure pas. Il doit prendre toutes ses dispositions, ne se présenter qu'une seule fois par an. S'il le fait plus, il risque de mourir. Donc tout cela afin qu'il ne meure pas. Et dans les versets 3 à 5, eh bien Aaron pourra se présenter à Dieu seulement s'il apporte des animaux comme sacrifice. Seulement s'il s'habille avec des vêtements en lin après s'être lavé. Et vous voyez que tout est codifié. Les règles sont précises et il importe pour Aaron de les respecter afin qu'il n'y laisse pas sa vie. Retenons ici que Dieu ne se laisse pas approcher par l'homme de n'importe quelle façon. Dieu ne se laisse pas approcher par l'homme de n'importe quelle façon. Dieu marque une distance qui est nécessaire avec l'homme pécheur afin que celui-ci ne meure pas. Dieu marque cette distance. Elle est nécessaire pour que l'homme ne meure pas à cause de son péché, à cause de sa désobéissance envers Dieu. Et c'est en cela que nous voyons combien le péché nous sépare de Dieu. Il y a cette distance. Que fait Aaron ensuite? Eh bien, lisons la suite du texte. Aaron offrira pour lui-même le taureau du sacrifice pour le péché, et il fera l'expiation pour lui et pour sa famille. Puis il prendra les deux boucs et les placera devant l'Éternel, à l'entrée de la tente de la rencontre. Il tira au sort pour savoir lequel des deux sera destiné à être sacrifié à l'Éternel et lequel sera destiné à être un bouc émissaire. Il fera approcher le bouc que le sort aura attribué à l'Éternel et l'offrira en sacrifice pour le péché. Quant au bouc, désigné par le sort comme bouc émissaire, on le présentera vivant devant l'Éternel, pour servir à l'expiation et pour être chassé comme bouc émissaire dans le désert. Nous voyons ici qu'il y a des animaux différents. D'un côté, le taureau qui sera sacrifié pour les péchés d'Aaron et de sa famille, et puis de l'autre, deux boucs pour les péchés du peuple. Et pour ce qui concerne ces deux boucs, il y a un tirage au sort. D'abord pour déterminer, justement, le sort de l'un et de l'autre. Le premier sera sacrifié, comme le taureau, et le deuxième restera vivant pour être chassé dans le désert. Et vous reconnaissez ici l'origine de l'expression « bouc émissaire ». Aujourd'hui, quand on parle de bouc émissaire, on désigne une personne sur qui retombent les fautes des autres. C'est celui qui prend tout à la place des autres. Eh bien, dans notre texte, c'est ce bouc sur lequel retombent tous les péchés du peuple. Alors, regardons un peu plus dans le détail maintenant. Verset 11. Aaron offrira pour lui-même le taureau du sacrifice pour le péché, afin de faire l'expiation pour lui-même et pour sa famille. Il immolera, ou il égorgera, le taureau de son sacrifice pour le péché. Alors, ce passage est assez sanglant, et tout ce qui va suivre est assez sanglant, et on n'est pas toujours habitué à lire ces descriptions, surtout si on n'a pas lu le Lévitique. Mais ici, c'est bien ce qui se passe. Et c'est le moment pour nous de définir un peu plus ce que nous entendons par expiation, parce que ce mot revient plusieurs fois dans ce texte, le mot expiation. Pour reprendre une définition de mon collègue Sylvain Romerowski, expier, c'est payer pour une faute. Quand on parle d'expiation, c'est le fait de payer pour une faute. Parfois, c'est par une rançon, et la loi pouvait autoriser cela, et parfois, c'est par un châtiment qui est considéré comme équivalent. C'est-à-dire que, au lieu que le pécheur paye lui-même, eh bien, on va prendre quelque chose d'équivalent qui va payer à sa place. Pour reprendre notre texte, pourquoi le taureau meurt ici ? Parce que Aaron et sa famille ont péché. Autrement dit, ils ont enfreint la loi de Dieu et le châtiment mérité, lorsqu'on enfreint la loi de Dieu, lorsqu'on lui désobéit, c'est la mort. Le pécheur devrait mourir pour sa faute. Mais dans sa grâce, Dieu accepte. Dans sa grâce, Dieu accepte qu'une autre victime paye à sa place. L'animal meurt, son sang est versé. C'est le moyen que Dieu donne à son peuple pour qu'il continue de vivre, en étant purifié, en étant pardonné. Et soulignons simplement que la mort de l'animal nous montre que le péché n'est jamais à prendre à la légère. S'il y a un animal qui meurt, cela renvoie à cette réalité que le péché n'est jamais à prendre à la légère. Et les textes comme Lévitique 16 sont là pour nous le rappeler. Continuons, verset 12. Après cela, il prendra, donc on parle toujours d'Aaron, il prendra un plein encensoir de charbon ardent de l'autel de devant l'Éternel et deux pleines poignées de parfum à brûler réduit en poudre. Et il emportera le tout au-delà du voile. Là, il répandra le parfum sur le feu devant l'Éternel, de sorte que le nuage de fumée couvre le propitiatoire qui se trouve au-dessus de l'acte de l'Alliance. Ainsi, il ne mourra pas. Il prendra du sang du taureau et en fera aspersion avec son doigt sur le côté oriental du propitiatoire. Puis il en fera sept fois aspersion devant le propitiatoire. Il immolera le bouc du sacrifice pour le péché du peuple et emportera le sang au-delà du voile. Il procédera avec ce sang comme avec celui du taureau. Il en fera des aspersions sur le propitiatoire et devant lui. Alors pour Rachel qui vient d'arriver par exemple, eh bien c'est un récit un peu sanglant. Mais nous sommes en train d'évoquer justement ce qui est en train de se passer ce jour-là, spécialement pour le peuple et également pour Aaron. Rien n'est laissé au hasard, et vous le voyez notamment avec le verset 13. Qu'est-ce que fait Aaron avec ce parfum qu'il a en poudre et qu'il met dans son encensoir en fumée? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il crée un nuage de fumée, un écran de fumée. Et pourquoi un écran de fumée? Eh bien, tout simplement pour pouvoir voiler le propitiatoire, le couvercle du coffre, là où Dieu manifeste sa présence. Voyez que là aussi, il y a encore une distance qui est marquée. Là où Aaron s'approche au plus près de la présence de Dieu, il faut encore qu'il y ait cet écran de fumée pour voiler le coffre, pour voiler le propitiatoire, là où Dieu se manifeste. Et vous observez la précision, ainsi il ne mourra pas. S'il ne fait pas cela, il mourra. Vraiment, on ne s'approche pas de Dieu de n'importe quelle manière, mais uniquement suivant les indications de Dieu. Que ce soit pour le taureau ou pour le bouc, Aaron devra asperger de sang le propitiatoire. Et tout à l'heure, nous avons vu quel était le sens de ce geste, afin que Dieu soit propice à son peuple. Le sang prouve qu'une vie a bien été offerte en sacrifice à la place du pécheur. Et c'est important de souligner que c'est à la place du pécheur. Donc ce n'est pas un sang humain qu'on apporte devant Dieu, mais c'est un sang animal à la place du pécheur. Poursuivons la lecture avec le verset 16. « C'est ainsi qu'il accomplira le rite d'expiation pour purifier le sanctuaire de l'impureté et des désobéissances des Israélites, de toutes leurs fautes, quelle qu'en soit la nature. » Il procédera de même pour la tente de la rencontre qui demeure avec eux au milieu de leurs impuretés. Personne ne devra se trouver dans la tente de la rencontre depuis le moment où il y entrera pour accomplir le rite d'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en ressorte. Il accomplira ces rites d'expiation pour lui-même, pour sa famille et pour toute l'assemblée d'Israël. Après cela, il sortira vers l'autel qui est devant l'Éternel et accomplira le rite d'expiation pour celui-ci. Il prendra du sang du taureau et du sang du bouc, et il en appliquera sur les cornes de l'autel tout autour. Puis avec son doigt, il fera sept fois l'aspersion du sang sur l'autel, Il le purifiera ainsi des impuretés des Israélites et le consacrera. Vous aurez remarqué que le mot « impureté » est mentionné 3 fois dans ce texte, dans ces versets. Avec le sang des sacrifices, les différentes parties du tabernacle sont purifiées. Et pour comprendre cela, il faut simplement dire que, à cause de toutes les fautes commises par le peuple d'Israël, à cause de toutes ces fautes, le lieu même où Dieu doit demeurer est souillé et doit être purifié. C'est à cause des péchés du peuple que le lieu même, le tabernacle, a besoin d'être purifié. Et même si ces pratiques que je viens de lire nous semblent d'un autre temps et vraiment sanglantes, il me semble qu'avec notre contexte actuel, nous pouvons saisir cette notion de souillure ou d'impureté. Vous savez, le geste que nous faisons lorsque nous nous lavons les mains avec du gel hydroalcoolique, le fait de nettoyer les poignées de porte, les chaises, le sol de la salle, le fait de porter un masque. Pourquoi nous faisons tout cela? Nous le faisons par précaution, en cas de présence du virus. Un virus que nous ne voyons pas. De même, cette souillure causée par le péché n'est pas visible, mais elle est bien réelle aux yeux de Dieu. Elle n'est pas visible, mais elle est bien réelle aux yeux de Dieu. C'est pourquoi même le tabernacle doit être purifié. Passons au verset 20. Ça va? Vous tenez bon? Quand il aura, donc on parle toujours d'Aaron, quand il aura achevé le rite d'expiation pour le sanctuaire, pour la tente de la rencontre et pour l'autel, donc le lieu est purifié, il fera amener le bouc vivant. Vous savez, le bouc émissaire. Il fera amener le bouc vivant. Il posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les désobéissances, tous les péchés, toutes les fautes des Israélites. Ainsi, il les fera passer sur la tête du bouc, puis il fera chasser celui-ci au désert par un homme désigné pour cela. Le bouc emportera sur lui tous leurs péchés dans un lieu à l'écart. On le chassera au désert. Voilà pour le bouc émissaire. Les versets que je viens de lire sont clairs. Ce deuxième bouc sert à emporter symboliquement sur lui tous les péchés du peuple hors du camp. Et je pense que lorsque nous faisons le lien avec la croix, avec Jésus qui meurt sur la croix, cela doit nous faire un petit peu tout drôle de penser que Christ joue ce rôle de bouc émissaire, puisqu'il porte les péchés sur lui. Il est ce bouc émissaire. Dieu estime que c'est à ces conditions, tout ce que nous avons lu jusque-là, qu'il peut considérer que le tabernacle et le peuple sont de nouveau purs, comme après un grand nettoyage. Mais en fait, ce n'est pas fini. Verset 23, « Aaron retournera dans la tente de la rencontre. Il ôtera les vêtements de lin qu'il avait mis pour pénétrer dans le sanctuaire, et les déposera là. Il se lavera à l'eau dans un lieu saint, puis remettra ses vêtements sacerdotaux ordinaires, et il sortira pour offrir son holocauste, ainsi que celui du peuple, afin d'accomplir le rite d'expiation pour lui et pour le peuple. Il brûlera sur l'autel la graisse de la victime du sacrifice pour le péché. L'homme qui aura chassé le bouc émissaire nettoiera ses vêtements, se lavera le corps à l'eau, et après cela, il pourra rentrer au camp. Quant au taureau et au bouc offert en sacrifice pour le péché, et dont le sang aura été introduit dans le sanctuaire pour accomplir le rite d'expiation, on emportera leur peau, leur viande et leurs déchets à l'extérieur du camp pour les brûler. Et celui qui les aura brûlés nettoiera ses vêtements, se lavera le corps à l'eau, et après cela, il pourra rentrer au camp. Si les instructions sont aussi détaillées ici, c'est encore une fois pour que nous comprenions que Dieu ne se laisse pas approcher de n'importe quelle manière. Dieu ne se laisse pas approcher de n'importe quelle manière, et surtout pas sans sacrifice. Et la raison est ce qui nous est rappelé tout au long du Lévitique. Dieu est saint. Pendant longtemps, j'ai considéré que la sainteté de Dieu représentait sa perfection morale. Dieu ne peut pas pécher et Dieu ne peut pas tolérer le péché. Tout comme, d'ailleurs, un parent ne devrait pas tolérer que son enfant lui désobéisse. Mais il y a un autre aspect beaucoup plus parlant lorsque nous lisons le Lévitique. Dieu est saint dans le sens où, parce qu'il est Dieu, il mérite d'être adoré. Il mérite d'être honoré, d'être vénéré. Parce qu'il est Dieu, tout simplement. Et là aussi, c'est Sylvain Romerowski qui a attiré mon attention sur le sens de ce mot. Parce que souvent, à tort, nous disons que « saint » signifie « être mis à part », parce que nous partons d'une certaine étymologie. Mais j'aimerais simplement dire que ce n'est pas la bonne méthodologie. Ce qui fait le sens d'un mot, ce n'est pas son étymologie, c'est son usage dans un contexte donné. C'est la manière dont ce mot est utilisé qu'il a un sens particulier, et non pas son étymologie. Et j'aimerais simplement citer quelques-unes des affirmations de Sylvain Romerowski pour justement nous faire réfléchir un peu plus à cette notion de sainteté de Dieu. Voici ce qu'il dit. Dire que l'Éternel est saint signifie qu'il fait l'objet d'un culte, qu'on a pour lui la révérence et la vénération qui sont dues à la divinité seule. Deuxième affirmation, affirmer la sainteté divine, c'est donc quasiment affirmer sa divinité. C'est parce qu'il est Dieu qu'on lui rend un culte. Et puis la troisième affirmation, que Dieu soit saint implique donc qu'on ne s'approche pas de lui n'importe comment. Il y a des conditions à respecter pour se tenir en sa présence et lui rendre un culte. C'est ce que nous appellerons les conditions de sainteté. Et c'est tout à fait parlant pour nous cet après-midi, alors que nous sommes en plein culte. C'est parce que Dieu, parce qu'il est Dieu, qu'on lui rend un culte. Et je trouve que c'est une très bonne raison. C'est parce qu'il est Dieu qu'on lui rend un culte. Alors, est-ce que nous remplissons les conditions pour lui rendre un culte? Est-ce que nous nous approchons de Dieu de la bonne façon? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir dans un deuxième temps. Parce que nous avons parlé d'abord des sacrifices qu'il y avait dans ce texte de Lévitique 16, mais le meilleur commentaire qu'il y a de ce chapitre 16 du Lévitique, eh bien, c'est un autre texte de la Bible, dans le Nouveau Testament. Et c'est l'auteur de la lettre aux Hébreux qui compare de manière générale tous ces sacrifices sanglants avec le sacrifice plus excellent de Jésus à la croix. Et comme nous allons le voir, les sacrifices tels qu'ils sont abordés dans Lévitique 16 étaient nécessaires. Nous l'avons vu, pourquoi ils étaient nécessaires, mais en réalité insuffisants. Nécessaires, mais insuffisants. Il fallait les répéter d'année en année. Est-ce que ces sacrifices apportés, c'était simplement une purification extérieure? Mais avec la venue et l'œuvre de Jésus, la différence est nette. Et je vous propose de parcourir cela brièvement. Si nous comparons ce qui est écrit dans Lévitique 16 et ce que nous trouvons dans l'Épître aux Hébreux qui nous parle de Jésus, eh bien voici ce que nous pouvons comparer. D'un côté, le grand prêtre, dans Lévitique 16, doit faire un sacrifice pour ses propres péchés, nous l'avons vu. Mais de l'autre, Jésus n'a pas besoin de cela, lui qui est saint et sans péché. D'un côté, le grand prêtre pénètre dans un sanctuaire terrestre, il officie dans la tente de la rencontre et sur l'autel des sacrifices. Mais qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il est entré dans le véritable sanctuaire. Au moment où il meurt, il entre dans le véritable sanctuaire. Un tabernacle qui n'a pas été construit par des mains humaines, ce qui désigne le ciel en fait. Donc en cela, Jésus pénètre dans un sanctuaire qui est supérieur au tabernacle. D'un côté, le sang aspergé sur les objets du culte n'opère qu'une purification extérieure. Nous avons vu les différents objets ou les différentes parties du tabernacle étaient purifiées par ce sang. Mais de l'autre côté, par son sacrifice, Jésus purifie notre conscience et son œuvre consiste en une purification intérieure. D'un côté, le grand prêtre sacrifie des animaux et utilise le sang de ces animaux. Mais qu'a fait Jésus ? Il a offert son propre sang et son propre corps. D'un côté, le jour des expiations doit être observé chaque année, et c'est une ordonnance en vigueur à perpétuité. Donc ça devait être répété. Et de l'autre, Jésus s'est offert une fois pour toutes. Et tout à l'heure, Michael l'avait dit également. Jésus s'est offert une fois pour toutes. Son œuvre est tellement efficace qu'il n'est plus nécessaire de présenter une offrande pour ôter les péchés. Son œuvre est tellement efficace que Jésus met fin au sacrifice. Et ce jour des expiations n'a plus besoin d'être répété. Et puis enfin, seul le grand prêtre peut pénétrer dans le lieu très saint. Vous vous souvenez, une personne, une fois par an. Seul le grand prêtre peut pénétrer dans le lieu très saint, au plus près de Dieu, à raison d'une seule fois par an. Mais qu'a fait Jésus ? Par son sang, Jésus donne à tous les croyants un libre accès au lieu très saint dans la présence de Dieu. Et pas seulement une fois par an, mais tous les jours. Pour toutes ces raisons évoquées, le sacrifice de Jésus est meilleur. Ce que nous lisons dans Lévitique 16 met en lumière par contraste toute la grandeur du sacrifice de Jésus. Avec Jésus, il ne s'agit plus d'une vie animale, mais d'une vie humaine. Jésus, entièrement Dieu et aussi entièrement homme, offre par sa vie le sacrifice parfait, le sacrifice nécessaire, le sacrifice efficace pour tous ceux qui en bénéficient. Et en quoi est-il efficace ? Eh bien, en lui, nous recevons le pardon de tous nos péchés. Jésus paie une fois pour toutes. Il n'y a pas besoin de répéter ce sacrifice. Il paye une fois pour toutes, pour toutes nos fautes, pour tous nos péchés, même les fautes que nous allons commettre à l'avenir. Il n'y a pas besoin de répéter encore un sacrifice pour ces péchés-là. Dieu sera toujours en mesure, à cause de ce que Jésus a fait, Dieu sera toujours en mesure de nous pardonner dès lors que nous comptons uniquement sur le sacrifice de Jésus. Et par rapport au peuple d'Israël, de l'époque de Moïse, nous avons un grand privilège que nous ne pouvons d'autant plus mesurer que si nous lisons un peu plus souvent aussi l'Ancien Testament. Nous nous rendons compte de ce grand privilège. Et quel est ce grand privilège ? C'est de pouvoir avoir accès à la présence de Dieu en tout temps. Pas seulement une personne, une fois par an, mais tous les croyants. Et tout le temps. Alors oui, en Christ, nous remplissons les conditions de sainteté pour nous présenter devant Dieu. Jésus nous a purifiés pour que nous soyons présentables. Et effectivement, comme nous l'avons chanté également, le voile est déchiré. Et tout à l'heure, si vous vous souvenez encore de l'image du tabernacle, le voile était ce qui séparait la première partie du sanctuaire avec le lieu très saint. Il y avait un voile, mais ce voile est déchiré et l'accès à Dieu est désormais ouvert pour celles et ceux qui acceptent ce grand sacrifice. Pour celles et ceux qui bénéficient à chaque fois de l'œuvre expiatoire de Jésus. Là où le peuple d'Israël devait se tenir à distance, l'auteur de l'Épître aux Hébreux peut dire, à cause de ce que Jésus a fait, approchons-nous. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Approchons-nous. Nous avons accès à la présence de Dieu, sans écran de fumée, sans voile, sans crainte de mourir, parce que Jésus est déjà mort à notre place. Est-ce que nous mesurons ce privilège ? Et bien plus, Jésus est ressuscité et continue d'intercéder pour nous, comme nous l'avons vu la semaine dernière. Chaque matin, au moment où tu te lèves, tu peux remercier Dieu parce que tu peux t'approcher de lui. Parce qu'il t'a donné le moyen d'être purifié, d'être pardonné. Et tout cela par grâce, sans aucun mérite de notre part. Oui, dès le matin, avant ton travail, avant tes activités, goûte à ce privilège de t'approcher du Dieu saint qui est digne d'être adoré. Prends quelques instants pour prier, pour louer Dieu, pour lire sa parole. Un grand sacrifice nous a ouvert le chemin vers Dieu. Et j'aimerais t'inviter cet après-midi à emprunter ce chemin vers Dieu. Et si vous êtes encore avec moi et que vous avez encore l'énergie de m'écouter un petit peu encore, eh bien, je vous propose que nous puissions faire le point sur un arrêt nécessaire. Parce qu'il nous reste la fin du chapitre 16 à aborder. Verset 29. « Ceci sera pour vous une règle en vigueur à perpétuité. Le 10e jour du 7e mois, vous vous humilierez et vous ne ferez aucun travail ce jour-là, aussi bien les autochtones que les étrangers résidant au milieu de vous. Car en ce jour-là, on accomplira le rite d'expiation pour vous, afin de vous purifier de toutes vos fautes. Ainsi, vous serez purs devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos complet pendant lequel vous vous humilierez. C'est là une institution pour toujours. Le rite d'expiation sera accompli par le prêtre qui aura reçu l'onction et l'office sacerdotal à la place de son père, autrement dit de génération en génération. Il revêtira les vêtements de lin, les vêtements sacrés. Il accomplira le rite d'expiation pour le sanctuaire sacré, pour la tente de la rencontre, le rite d'expiation pour l'autel, le rite d'expiation pour les prêtres et pour tout le peuple rassemblé. C'est pour vous une ordonnance en vigueur à perpétuité. Une fois par an, on doit accomplir pour les Israélites le rite d'expiation de toutes leurs fautes. On fit tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Pourquoi revenir sur cette partie du texte alors que nous venons de voir que Jésus a mis un terme à ce jour des expiations? Eh bien, en fait, ce sont les versets 29 à 31 qui ont attiré mon attention. Et il me semble que nous pouvons discerner la structure suivante. Et j'aimerais simplement attirer votre attention sur la manière dont parfois nous pouvons discerner comment l'auteur s'y prend pour composer son texte. Et là, très clairement, c'est mis en évidence. Par les répétitions notamment. Et ce qui est mis en évidence au centre de tout cela, c'est le verset 30. Car c'est le jour des expiations pour la purification de tous les péchés. C'est la raison pour laquelle le peuple d'Israël devait s'humilier et ne pas travailler ce jour-là. La raison est mise au centre de tout cela. Voilà pourquoi Israël devait s'humilier et ne pas travailler ce jour-là. Et cela devait se répéter tous les ans, le 7e mois de l'année. Et vous pourrez d'ailleurs chercher sur Internet comment les Juifs d'aujourd'hui continuent d'appliquer ce texte lorsqu'ils fêtent le Yom Kippour. Parce que c'est bien de cette fête dont on parle ici. Donc la raison est mise au centre ici. La raison pour laquelle le peuple d'Israël doit marquer un temps d'arrêt ce jour-là. C'est parce qu'en ce jour particulier, par les sacrifices et tous les rites, Dieu accepte, dans sa grâce, de purifier les Israélites de tous leurs péchés. Dieu fait table rase. Il accepte que tous les péchés soient pardonnés, soient purifiés à ce moment-là. C'est pourquoi nous appelons parfois aussi ce jour le jour du grand pardon. C'est un jour particulier dans l'année, une seule fois par an. Mais en ce qui nous concerne, nous ne fêtons pas le Yom Kippour. Sinon, on le saurait, hein, qu'à l'église, on ne fête pas le Yom Kippour. Mais chaque dimanche, lorsque nous cessons de travailler pour rendre un culte à Dieu, nous avons l'occasion de nous souvenir de notre jour de l'expiation. C'est-à-dire le jour où Jésus est mort à la croix, payant pour nos péchés. C'est ce jour, précisément, qui importe pour nous. Le culte du dimanche est le bon moment pour nous rappeler que nous avons été purifiés de tous nos péchés. Et c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. C'est ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Et cela fait sens que dans notre Église, nous évoquions l'œuvre de Jésus à la croix dimanche après dimanche. Ce n'est pas une répétition inutile. Et je remercie le Seigneur pour cela, que nous le fassions dimanche après dimanche. C'est tellement primordial. Et effectivement, en tant qu'Église, sachons nous arrêter le dimanche pour apprécier, comme devant un magnifique tableau, la grâce que Dieu a manifestée en Jésus-Christ. Nous ne nous présentons pas devant Dieu avec prétention ou avec orgueil, mais nous nous humilions. Parce que nous reconnaissons devant Dieu que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de son pardon. Nous avons besoin du sacrifice de Jésus. Et il me semble, comme nous l'avons fait tout à l'heure, qu'il y a une place dans le culte pour confesser aussi nos péchés. Nous nous humilions devant Dieu lorsque nous venons au culte. Et en dehors du dimanche alors, est-ce que ça compte ? En dehors du dimanche, chaque jour, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, nous pouvons célébrer le salut accompli par Jésus-Christ. Ce qui est particulier avec le dimanche, c'est que nous sommes tous rassemblés. Mais en dehors du dimanche, nous pouvons aussi célébrer le salut que Jésus a accompli. Mais évidemment, il faut préciser cela, évidemment, cela n'est possible que si nous nous arrêtons dans nos activités en semaine. Cela est possible seulement si nous nous arrêtons en famille pour considérer que grâce à Christ, nous sommes purifiés, pardonnés, réconciliés avec Dieu. Pour l'Israélite du temps de Moïse, ne pas s'arrêter et ne pas s'humilier, c'était ne pas prendre en considération l'importance de l'expiation et l'importance de ce que Dieu exigeait. Mais assurément, si nous nous arrêtons et si nous nous humilions, eh bien, ce sont deux manières de souligner dans notre vie que ce que Jésus a accompli est pleinement suffisant, que ce que Jésus a accompli est pleinement efficace et si important pour nous. Comment montrer que la croix a de l'importance ? En nous arrêtant et en nous humiliant aussi. Il n'y a rien à ajouter de notre part. Et comme Jésus l'a dit à la croix, tout est accompli. Alors s'il nous arrive de nous laisser aller quand il s'agit de faire le ménage à la maison, qu'il n'en soit pas de même pour notre vie quand il s'agit du péché. C'est vrai que nous ne pouvons pas nous en débarrasser totalement en cette vie. Et même les Israélites pouvaient le comprendre, puisqu'ils devaient sans cesse offrir des sacrifices à cause de cette souillure permanente. Mais Dieu nous a donné un moyen d'être purifiés de tous nos péchés, d'être pardonnés, afin que nous puissions lui rendre un culte. Grâce à Jésus-Christ, nous pouvons nous approcher de Dieu. Et Dieu peut s'approcher de nous. Tout à l'heure, je parlais de distance, mais ici, la distance n'est plus. Nous pouvons nous approcher de Dieu, et Dieu peut s'approcher de nous. Et c'est ce que dit l'apôtre Jacques, d'ailleurs, en empruntant le langage rituel. « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Et comment purifier notre cœur si ce n'est en reconnaissant qu'en dehors de Christ et de son œuvre parfaite, il n'y a pas de purification pour nous. Notre cœur ne peut pas être purifié autrement. Et si tu ne t'es pas encore réconcilié avec Dieu, laisse-toi purifier par le sacrifice de Jésus. Admets que c'est le seul moyen pour toi, comme pour nous tous, d'être accepté par Dieu dans sa présence. Amen. J'aimerais vous inviter à prier avec moi. Merci notre Père parce que par amour pour nous, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ. Il a payé pour nos fautes à notre place, afin que tu veuilles bien nous pardonner, afin que nous soyons réconciliés avec toi. Tu nous as donné aussi un privilège immense de pouvoir nous approcher de toi. Et au lieu de recevoir la mort, c'est la vie que nous recevons de toi. Merci pour cela. Père, agis en nous, afin que notre plus grand désir et notre plus grand plaisir soit d'être près de toi chaque jour de notre vie. Tu es saint et digne d'être adoré. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.